Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur internet. Et si vous nous suivez un petit peu partout, bien vous vous connectez sur le site internet de Graphite et vous avez la possibilité de pouvoir justement suivre toutes les émissions de Graphite, de pouvoir récupérer tous les podcasts bien évidemment. Tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi à 10h, c'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Nous sommes le 18 juin, c'est déjà la dernière de cette saison. Ça passe vite, c'est quand même une saison qui a été... on est revenu, on va dire, dans un contexte un petit peu plus normal suite à ces deux années précédentes où les saisons des émissions de Graphite étaient un peu particulières en raison de cette épidémie de Covid-19, bien sûr. On en a un petit peu moins parlé ces derniers temps. Il n'empêche qu'il faut toujours être vigilant, bien sûr. Mais on a parlé de l'actualité scientifique dans différents domaines tout au long de cette saison, parce qu'on voit très bien que la science avance. On a pas mal parlé, bien sûr, de l'espace, parce que je vous l'ai toujours dit, cette décennie 2020 va être totalement sensationnelle d'un point de vue spatial, parce qu'on voit très bien que les choses avancent, bien évidemment. Mais l'actualité scientifique, elle touche différents domaines, pas mal de choses au niveau de la médecine, bien sûr, au niveau des technologies. Et puis, en fil rouge, bien sûr, toujours des sujets liés à deux grandes problématiques. La première, c'est le réchauffement climatique, bien sûr, réchauffement, dérèglement climatique, avec là encore dans cette émission des articles qui vont évoquer ce sujet. Et puis le deuxième défi, ça va être celui de la transition énergétique, bien sûr, car on voit très bien que l'énergie va être un sujet très important. Alors si en plus on rajoute le contexte géopolitique, alors là, ça devient encore beaucoup plus complexe. Il n'empêche que, d'un point de vue énergie, il va falloir aussi trouver des solutions, des réponses et déterminer un petit peu des orientations politiques sur ce que l'on souhaite faire, que ce soit au niveau français, au niveau européen, mais au niveau mondial, bien évidemment. Et donc, en fil rouge, on avait un petit peu très régulièrement dans cette émission ces sujets qui étaient abordés, bien sûr. 18 juin, les Nations Unies ont décidé que c'était la journée de la gastronomie durable. Alors, j'ai pas très bien compris ce que signifiait la gastronomie durable. Est-ce que c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les circuits courts? Est-ce que c'est manger des choses, de façon cohérente par rapport aux saisons, manger des produits de saison au lieu d'avoir des tomates en plein hiver, par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, on décide que c'est la journée de la gastronomie durable. Écoutez, vous êtes peut-être à table en ce moment si vous nous écoutez. Et je vous souhaite un bon appétit et donc profitez de cette journée mondiale de la gastronomie durable. 18 juin 1858, Charles Darwin reçoit un manuscrit d'Alfred Russel Wallace qui va le rejoindre sur l'évolution des espèces biologiques en 1858. En 1948, lancement du disque vinyle longue durée par la Columbia Broadcasting System. CBS. CBS, oui, c'est un sigle qu'on voyait sur nos disques vinyles à l'époque. Eh bien, ça a été lancé le 18 juin 1948. Et enfin, 1983, c'est le lancement de la navette spatiale Challenger pour une mission avec notamment à son bord une première femme américaine qui s'appelait Sally Ride, première femme américaine à se rendre dans l'espace extra-atmosphérique. Naissance en 1845 de Charles-Louis Alphonse Laveyran, médecin militaire, parasitologiste français, pionnier de la médecine tropicale, donc parasitologiste, on pense aux parasites, et il a découvert en 1880 le parasite responsable du paludisme. Pour la première fois, a été mis en évidence que les protozoaires pouvaient être la cause de maladies, et ses travaux lui ont valu de recevoir le prix Nobel de médecine en 1907. Décès le 18 juin 1971 de Paul Carrère, chimiste organique suisse, principalement connu pour son travail sur les vitamines. Il est lauréat du prix Nobel de chimie en 1937 pour ses recherches sur les caroténoïdes, les flavines, ainsi que sur les vitamines A et B21. Paul Carrère, décédé donc le 18 juin 1971. C'était l'éphéméride de ce jour. Alors, pas mal d'articles que nous allons évoquer dans cette émission, bien sûr, mais aussi un peu de musique. C'est le mois de juin, on en profite pour cette dernière.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire!
REM sur l'antenne de Graphite, The One I Love. Oui, j'ai sorti des vieux disques de la playlist de Graphite pour me faire plaisir. Je me suis dit, ça va peut-être vous faire plaisir aussi d'écouter REM. C'est vrai que ça fait des années. Je sais même plus quand, en fait. Ça remonte qu'aux années 90, il me semble. C'est assez effrayant. Tout aussi effrayant, ces articles. Oui, parce que même si je suis d'humeur un petit peu estivale, on va dire, l'actualité, elle est pas toujours réjouissante et reste toujours alarmiste. Les données satellites révèlent un changement inquiétant dans le cycle de l'eau globale de la Terre. Le cycle de l'eau, c'est un peu le parcours qui s'effectue naturellement entre les grands réservoirs d'eau de notre planète. Et donc l'énergie du soleil et la chaleur sont à l'origine de ce parcours qui va favoriser l'évaporation de l'eau et son déplacement dans l'atmosphère. Donc l'eau douce devient de plus en plus douce, l'eau salée devient de plus en plus salée. C'est le constat d'une étude de chercheurs espagnols de l'Institut des sciences marines qui a été publiée cette étude dans la revue Nature. Les modèles de prévision de climat avaient déjà envisagé ce phénomène, mais pas de manière aussi rapide. Plus les températures mondiales augmentent, plus grande est bien sûr l'évaporation à la surface des océans, ce qui laisse les eaux de surface plus salées et ajoute de l'humidité supplémentaire dans l'atmosphère. Et donc cette humidité, elle va renforcer les précipitations dans certaines régions du monde et diluer l'eau douce des rivières et des lacs qui vont les rendre encore moins salées. Cette évolution, elle pourrait également suralimenter les épisodes de précipitations diluviennes. Donc, les zones humides seront encore plus humides avec des précipitations plus intenses, plus fréquentes, qui vont entraîner davantage d'inondations. Et les zones sèches, eh bien, elles souffriront encore plus de la sécheresse. Un quart de l'humanité souffre déjà du manque d'eau et la perspective de sécheresse plus fréquente et plus forte pourrait mener à une crise planétaire sans précédent selon les Nations Unies. Dans les régions polaires, le changement climatique a déjà eu pour conséquence une augmentation des pluies au printemps ce qui fait fondre la neige, qui est une fonte encore plus rapide. Le changement climatique a également pour conséquence un affaiblissement général des vents. Ces vents moins forts permettent aux eaux de surface de se réchauffer sans laisser se mélanger l'eau chaude de surface avec celle un petit peu plus fraîche en dessous. Et donc les eaux de surface s'évaporent, le sel reste et reste donc piégé à l'étage supérieur. Les modèles de prévision climatique les plus récents estiment que pour chaque degré de réchauffement gagné, eh bien le cycle de l'eau s'accélère de 7%, ce qui veut dire que concrètement, cela veut dire que les zones humides, seront 7% plus humides et les zones sèches seront 7% plus sèches. Des estimations qui s'accordent avec les dernières prévisions du GIEC sur les conséquences envisagées du changement climatique. Si l'humanité arrive à limiter la hausse des températures à 2% par rapport au niveau pré-industriel, c'est le fameux accord de Paris bien sûr, les phénomènes météo extrêmes seront de toute manière 14 fois plus forts comparé à ce qu'ils étaient au début de la révolution industrielle. Mais comme on est sur un scénario où tous les indicateurs semblent dire qu'on n'arrivera pas à tenir ce scénario, à tenir cet objectif, ça va être dépassé, donc ça va être encore plus catastrophique. Mais voilà, je veux dire que très régulièrement, pour ne pas dire quasiment toutes les semaines dans cette émission, on a des articles qui paraissent dans des revues scientifiques de grande qualité. Enfin, je veux dire, là, on parle d'un article dans Nature, c'est pas la Gazette du coin. Donc, et ça confirme une tendance qui s'affirme de plus en plus depuis un certain temps. Et là, du coup, on parle du cycle de l'eau. Deuxième article dans ce sujet, c'est au niveau de la chaleur. L'Inde, le Pakistan ont récemment, courant mai, il me semble, été confrontés à des températures qui avoisinaient les 50 degrés pendant plusieurs jours. Alors, si l'impact réel sur la mortalité n'a pas encore été communiqué, mais on voit très bien et on sait très bien, faut pas se leurrer, qu'il y aura bien sûr des impacts. Les services de santé indiens ont déjà estimé que le nombre de personnes tuées par la chaleur en Inde depuis 1967 s'élève à au moins 40 000. C'est un chiffre probablement largement sous-estimé compte tenu de la difficulté de l'Inde à obtenir des données sur la santé de sa population, la plus pauvre et la plus isolée. Alors, plus près de chez nous, la canicule de référence en Europe, c'est celle, bien sûr, de l'été 2003, on s'en souvient tous, et elle avait été responsable du décès d'au moins 70 000 personnes en Europe, 15 000 en France, en l'espace d'un mois et demi. En 2010, la vague de chaleur en Russie avait causé au moins la mort de 10 000 personnes à Moscou. Alors, le corps humain ne peut pas fonctionner normalement avec une température interne qui est supérieure à environ 37 degrés. Or, les vagues de chaleur, surtout quand elles sont associées à de l'humidité, elles peuvent faire grimper la température corporelle largement au-dessus. Et donc, les conclusions de l'université d'Hawaï qui ont été publiées dans la revue Nature Climate Change tendent vers un scénario particulièrement noir pour l'humanité. Les trois quarts de la population mondiale pourraient mourir de chaud d'ici 80 ans si le climat continue de se réchauffer à la même vitesse. Si l'humanité décidait entre-temps de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière drastique, ce chiffre alarmant descendrait alors à 48% selon les estimations des chercheurs. Actuellement, l'université d'Hawaï estime à 30% la part de la population exposée à au moins 20 jours de chaleur potentiellement mortelle par an. 20 jours par an, c'est énorme. En ce qui concerne les vagues de chaleur, nous avons le choix entre un scénario futur mauvais ou terrible, selon l'auteur principal de cette étude qui s'appelle Camilio Mora. Alors, les zones au climat tropical seront les plus à risque car la chaleur humide y est présente toute l'année, contrairement aux zones situées plus au nord où ces conditions météo ne sont présentes que l'été. De plus, la température est déjà naturellement élevée sur les tropiques, donc il suffit simplement d'une simple, légère hausse pour que la chaleur atteigne un seuil mortel. Alors, si les vagues de chaleur sont évidemment bien plus mortelles dans les pays qui ne bénéficient pas assez de l'accès à l'air conditionné, bien évidemment, elles tuent également dans les grandes agglomérations modernes. Parmi les grandes villes ayant connu un taux de mortalité important lors des dernières canicules, on trouve par exemple New York, Washington, Los Angeles, Chicago aux États-Unis, Toronto, mais aussi Londres, Pékin, Tokyo, Sydney et Sao Paulo. Alors, bien que située au nord des États-Unis, la ville de New York pourrait connaître 50 jours de chaleur potentiellement mortelle par an d'ici 2100. Donc d'ici la fin du siècle, il y aurait 50 jours de chaleur intenable, on va dire, à New York, qui est quand même très au nord. Ce nombre de jours à risque élevé pour la santé humaine s'élèvera à 30 par an pour Los Angeles, 20 pour Sydney en Australie. Pour des villes américaines qui bénéficient déjà d'un climat chaud et humide, par exemple en Floride, au Texas, le nombre de chaleurs mortelles pourrait dépasser les 90, c'est-à-dire tout l'été. Tout l'été serait intenable. Les populations les plus isolées sont celles qui disposent le moins de climatisation, bien sûr. Et puis, alors, on parle de climatisation... derrière tout ça, il y a aussi les émissions de gaz à effet de serre. Hein, quelque part, c'est un cercle vicieux. Mais ces populations les plus isolées, elles disposent de moins de climatisation et d'un accès moindre aux soins également. Mais dans les grandes villes, comme Paris, comme New York, le phénomène d'îlots de chaleur urbain fait des ravages. Lors de la canicule de 2003 en Europe, les femmes âgées, sédentaires et seules ont été les premières victimes. Juste derrière, les hommes âgés de 25 à 64 ans, c'est quand même pas non plus n'importe qui, j'allais dire. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un panel assez large, et cela en raison du fait qu'ils sont majoritaires à travailler dehors, donc essentiellement, par exemple, les ouvriers, les jardiniers, enfin, toutes les personnes, les ouvriers du bâtiment essentiellement. En plus des effets directs de la chaleur sur le risque de mortalité, il y a des conséquences indirectes qui augmentent les risques sur la santé. Le développement de virus et de maladies vectorielles, notamment liés aux moustiques dans les zones chaudes et humides, mais aussi les risques liés au dangereux mélange de la chaleur et de la pollution à l'ozone. Et donc, face à ces menaces, il n'y a qu'une seule solution, nous dit-on, réduire de manière historique nos émissions de gaz à effet de serre, un changement qui n'a pas encore été amorcé puisque les émissions de CO2 et de méthane ont encore atteint un niveau record en 2021, c'est-à-dire l'année dernière. On était encore en période Covid, faut quand même pas l'oublier, et on atteint des taux records d'émissions de CO2 et de méthane. C'est des scénarios catastrophiques, mais ce sont des scénarios qui sont pour l'instant réalistes, car répétés de plus en plus avec l'accumulation de ces articles, de ces travaux de recherche qui, comment dire, donnent une vision totalement alarmiste de ce qui nous attend. Et donc, du coup, on pourrait littéralement mourir de chaud d'ici 2100 dans de très, très nombreuses villes, et en tout cas dans de très nombreux pays à voir. Donc, c'est, comme je vous le disais en début de cette émission, un fil rouge qu'on a eu tout au long de cette année, qu'on aura encore, faut pas se leurrer, parce qu'on voit très bien qu'il va falloir apporter des solutions. Et pour l'instant, c'est une prise de conscience qui... la prise de conscience, elle existe entre guillemets, mais c'est-à-dire que les actions à mettre en place pour l'instant restent très, très épisodiques, bien sûr. Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance pour cette dernière. Alors, on va écouter un petit peu de musique pour essayer d'adoucir un peu les mœurs. Bad Girls Go to Hell, c'était End sur l'antenne de Graphite. Vous avez peut-être vu cette image qui a circulé sur différents sites internet, qui est assez impressionnant. Enfin, on se pose des questions, c'est cet étrange chemin pavé qui est découvert au fond de l'océan. On se demande est-ce que serait la mythique route qui mène à la cité d'Atlantis. Est-ce que c'est elle, cette route, que les scientifiques viennent de découvrir au fond de l'océan Pacifique ? La réponse est non, je vous le dis tout de suite, mais en tout cas c'est une formation géologique assez impressionnante, c'est à environ 1000 mètres sous la surface de l'eau. Les membres de l'expédition Ocean Exploration Trust ont découvert un étrange chemin de briques jaunes, ou en tout cas ça y ressemble, et c'est vrai qu'on voit comme un chemin pavé, c'est assez impressionnant. Mais il ne s'agit pas de briques qui sont façonnées par l'homme, mais bien par des processus naturels. Cette stupéfiante formation géologique se trouve au sein du monument national marin de Papahānaumokuakea. Oh là là, je me suis lancé, j'ai réussi. C'est une immense réserve marine qui englobe plusieurs îles du nord-ouest de l'archipel d'Hawaï. Cette zone très volcanique est actuellement le terrain de jeu de scientifiques qui cherchent notamment à caractériser une chaîne d'anciens volcans aujourd'hui enfoui sous les eaux du Pacifique. Et en effectuant une plongée sur le sommet du mont sous-marin Nootka, eh bien l'équipe a découvert que le fond océanique était étrangement fragmenté sous forme de briques parfaitement rectangulaires. Donc ça fait vraiment comme un chemin pavé. Si la découverte a immédiatement fait réagir les scientifiques de la mission, c'est parce qu'il est très rare d'observer ce genre de formation et que naturellement, l'analogie avec la route de briques jaunes du conte Le Magicien d'Oz ou alors la voie qui mène à Atlantis, bah c'est plutôt poétique, bien évidemment, et ça fait des belles images, c'est pour ça qu'on les a bien vues sur Internet il y a quelques semaines. L'explication géologique, elle est tout aussi intéressante, parce qu'il s'agit en réalité de ce qu'on appelle des yaloclastites, ce sont des roches volcaniques qui se sont produites lorsqu'une coulée de lave entre en contact avec l'eau, et ce refroidissement brutal engendre donc un choc thermique qui va fracturer la roche en train de se cristalliser. Et ce type de roche est classique des éruptions volcaniques sous-marines. Les fractures qui sont vraiment bien rectilignes avec des angles à 90 degrés. Ça donne bien cette impression de briques, hein, parce que ça fait vraiment des pavés rectangulaires. Eh bien, ce serait le résultat de multiples éruptions qui induisent plusieurs cycles de chauffe et de refroidissement, et ce qui donnerait justement ces fractures bien, bien linéaires et qui donnent cette image assez fascinante. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, vous regarderez sur Internet ce chemin pavé assez étrange, et c'est vrai qu'on le voit sous l'eau, enfin c'est voilà, on se dit tiens, ça mène quelque part, et eh bien non, voilà, c'était une fausse alerte, mais bon, ça fait toujours, c'est un peu poétique, ça peut être quand même intéressant. On va parler automobile avec cette technologie sur laquelle travaille la start-up israélienne StoreDot, une nouvelle technologie destinée à considérablement accélérer le chargement des batteries électriques tout en augmentant leur durée de vie. StoreDot estime ainsi que la batterie qu'ils mettent au point ne perd en rien en performance, même après plus de 1500 cycles de recharge. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Pour le moment, cette technologie ultra rapide permet de charger l'équivalent de 160 km en seulement 5 minutes. Alors effectivement, 5 minutes, c'est à peine le temps d'une pause pipi. Vous avez rechargé votre batterie pour faire 160 km, ça serait quand même pas mal. L'idée est d'aboutir à une recharge équivalente en 3 minutes d'ici 2028, puis en seulement 2 minutes à l'horizon 2032. On n'aurait même plus besoin de pause pipi finalement. C'est quand même assez génial. Alors, StoreDot, c'est un expert de ce qu'il est convenu d'appeler la charge rapide extrême pour les véhicules électriques. Cette démonstration a non seulement un intérêt pratique bien évidemment, mais aussi surtout écologique, puisque plus les batteries fonctionneront longtemps, moins il faudra les changer et donc moins les jeter bien évidemment. Et le but ultime de ces recherches, c'est donc de réduire l'impact environnemental de cette surproduction à venir des batteries pour véhicules électriques. Alors, ce programme de développement a d'ores et déjà permis de produire des batteries capables de dépasser 1200 cycles de recharge rapide consécutifs sans dommage ni baisse de performance, contrairement aux batteries lithium-ion à charge rapide qui sont utilisées actuellement. Et cette start-up StoreDot estime même que ces performances peuvent rester relativement élevées jusqu'à 1700 cycles. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Ces performances sont dues à une technologie basée sur des nanoparticules actives qui ont été brevetées et elles accélèrent la diffusion des ions. Et donc du coup, ça remplace l'anode traditionnelle en graphite des batteries que l'on connaît en lithium-ion. Et tout est optimisé aussi par de l'intelligence artificielle. Il y a des algorithmes qui permettent de déconnecter automatiquement une cellule en surchauffe avant de la reconnecter une fois le problème résolu, si bien que ça évite de trop l'abîmer et d'endommager aussi les cellules environnantes. Ça réduit aussi sensiblement les risques d'incendie, bien sûr. Alors la problématique de la durée de vie des batteries électriques est fondamentale à la veille justement d'une bascule historique que l'on est en train de vivre entre le tout thermique jusqu'à les... on va basculer au tout électrifié quelque part. Et donc du coup, si on arrive à trouver des solutions qui vont être performantes dans ces domaines-là, c'est tant mieux. Il y a de nombreuses sociétés, il y a de nombreux constructeurs qui travaillent actuellement sur des alternatives à cette traditionnelle batterie lithium-ion. Il y a le chinois GAC qui est même devenu le premier constructeur à commercialiser un modèle équipé d'une batterie à base de graphène qui est extrait du graphite. Voilà, c'est un hommage à notre radio et c'est tant mieux. Donc tout ça provient du carbone, bien évidemment, et son principal atout, c'est d'être plus rapide à recharger, mais aussi plus résistant et par conséquent moins sujet à l'usure. Et de son côté, il y a une autre start-up américaine qui s'appelle Our Next Energy, qui a par exemple mis au point une batterie capable de parcourir plus de 1200 km avec une seule charge, et elle espère d'ailleurs pouvoir commercialiser ses premiers produits d'ici la fin de l'année prochaine. Donc on va avoir quand même bientôt sur le marché des batteries et des voitures électriques performantes, parce que du coup, ce qui pour l'instant restait une problématique, la problématique de l'autonomie, de la charge, eh bien on est de plus en plus sur des solutions qui sont véritablement performantes, et c'est tant mieux, on pourra quand même partir en vacances.
Come on!
in the North, c'était The Fall sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine pour la dernière émission de cette saison 2021-2022, une saison qui est passée vite finalement. Je trouve que voilà, je sais pas, le temps passe tellement vite et toutes les semaines on a toujours des informations vraiment intéressantes à évoquer dans cette émission parce que la science avance, elle communique, donc nous on en profite tant qu'à faire et ça parle de toutes sortes de sujets. C'est ça aussi qui est intéressant, on ne s'ennuie pas parce qu'on passe d'un sujet à l'autre. Là par exemple, il y avait cet article de Futura dont le titre était assez, je sais pas, qui interpelle « Comment une montre connectée scotchée à un arbre peut améliorer la gestion de l'eau ?» Alors évidemment, quand vous voyez un titre comme ça, vous n'avez qu'un réflexe, c'est de cliquer dessus pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qu'on apprend, c'est que, bah, tout comme les bracelets connectés permettent d'en apprendre beaucoup sur notre activité physique et d'une façon plus générale sur notre santé, il y a des chercheurs qui s'intéressent au mouvement des arbres qui se balancent au gré du vent. Et pour ce faire, ils ont scotché des accéléromètres à leur tronc. C'est un petit peu comme ces montres connectées qu'on a également. Et plusieurs groupes de chercheurs étudient les arbres de cette manière afin d'en apprendre plus sur les conditions environnementales dans lesquelles les forêts évoluent. La masse de l'arbre et celle de la canopée modifient le balancement qui peut être mesuré par les chercheurs. Lorsqu'il pleut, la masse de la canopée augmente, réduisant les mouvements de l'arbre. Et à l'inverse, en cas de sécheresse, l'arbre perd en masse et en rigidité. Et donc l'arbre se balance plus lentement et permet aux chercheurs de détecter le stress hydrique de l'arbre, c'est-à-dire quand on sait qu'en fait il est en manque d'eau. Un récent article publié dans le journal Water Resources Research, j'y arrive, s'intéresse plus particulièrement à la neige. Lorsqu'un arbre est recouvert de neige, la masse supplémentaire ralentit ses mouvements. Il permet par exemple d'évaluer la différence entre la neige coincée dans la canopée, dont une bonne partie finit par s'évaporer, et la quantité de neige qui tombe effectivement au sol. Il y a une autre étude, publiée cette fois dans la revue Agricultural and Forest Meteorology, qui utilise les mêmes mesures, mais cette fois pour étudier la phénologie des arbres. Ils peuvent ainsi détecter le changement de masse lorsque les feuilles poussent au printemps ou tombent en automne. Alors les accéléromètres peuvent même révéler le moment de la floraison, ce qui permettrait de prévoir les pics de pollen ou encore l'arrivée d'insectes invasifs. Alors l'utilisation d'accéléromètres viendrait compléter les outils actuels comme la surveillance vidéo bien sûr des forêts et ça pourrait permettre à l'avenir d'évaluer la réponse des arbres au changement climatique et de déterminer les espèces bien sûr les plus résistantes. Mais voilà, les montres connectées, on les met aux arbres maintenant, c'est quand même une nouvelle trouvaille, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Comme on parle de montres connectées, il y a cet article qui nous informe sur nos données personnelles qui sont partagées des centaines de fois par jour. C'est un rapport du Conseil irlandais pour les libertés civiles qui épingle les publicitaires et une pratique qu'on appelle le RTB, le Real Time Bidding, c'est-à-dire les enchères en temps réel. C'est elle qui détermine quelles publicités sont affichées dans les pages web ou les applications. Alors, lorsque vous chargez une page ou une application contenant de la publicité, eh bien votre profil contenant notamment votre géolocalisation et le contenu consulté, eh bien tout ça est envoyé à un serveur publicitaire. Il y a différents annonceurs qui consultent ces informations, qui les croisent éventuellement avec d'autres données qu'ils détiennent déjà et puis vont enrichir tout cela. Je vais y arriver, excusez-moi. Et c'est celui qui l'emporte qui voit sa publicité affichée. Du coup, on a quelque part une publicité ciblée. Toute l'opération se déroule automatiquement en quelques centaines de millisecondes. Alors, en moyenne, les données d'un internaute européen sont exposées 376 fois par jour. En France, c'est 340 fois par jour. Aux États-Unis, le nombre est bien plus élevé parce que les internautes américains voient leurs données partagées en moyenne près de 750 fois par jour. Parmi les publicitaires pointés du doigt, Google, qui arrive en tête avec 21% de ses diffusions RTB. Le rapport cite également Microsoft et d'autres grosses entreprises moins connues du grand public, mais qui, comme Pubmatic ou alors Index Exchange. Bref, les informations personnelles, elles sont partagées avec de nombreux annonceurs. Microsoft indique par exemple que sa plateforme peut envoyer des données à plus de 1600 autres entreprises. Même si elles sont censées être anonymes, et bien une fois diffusées, ces données peuvent être réutilisées à d'autres fins. aux États-Unis, les informations du RTB, donc ces fameux dispositifs, ça a notamment servi à profiler les manifestants du mouvement Black Lives Matter, ou encore pour d'autres cas également qui ont été révélés par ce biais-là. Reste à savoir si cette pratique pourra continuer en Europe. L'autorisation de protection des données belge devrait bientôt décider si le RTB est compatible avec le règlement général sur la protection des données, c'est le fameux RGPD, ce qui pourrait avoir les conséquences à travers toute l'Union européenne. Donc s'il y a cette décision-là, bien sûr, il va falloir trouver des solutions pour faire en sorte que ces données, que nos données personnelles ne soient pas exposées. Mais en tout cas, voilà, cette étude irlandaise qui nous affirme qu'en moyenne 400 fois par jour, nos données sont données personnelles sont exposés et utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Bien sûr, tu m'étonnes. Allez, on écoute encore un titre parce que c'est bientôt les vacances et ça nous fait du bien. Green, c'était Solange Lafrange sur l'antenne de Graphite. Deux sujets encore intéressants, notamment cette démonstration impressionnante de l'US Navy, parce que le nerf de la guerre, c'est l'énergie, bien sûr. Et on peut constater, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, que une mauvaise logistique d'approvisionnement rend inefficace les manœuvres, bien sûr. Alors, pour accroître l'autonomie tout en réduisant les contraintes d'approvisionnement, eh bien, l'armée américaine a trouvé une solution: délivrer de l'énergie par la voie des airs. Ainsi, le laboratoire de recherche de l'US Navy s'est enorgueilli d'avoir réalisé l'expérimentation la plus importante des 50 dernières années, nous dit-elle. Ça se passe dans le Maryland, au centre de recherche de l'armée américaine. Les chercheurs sont parvenus à maintenir 1,6 kW de puissance par kilomètre à l'aide d'un faisceau micro-ondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a réussi à faire du transport d'électricité sans fil. L'électricité est d'abord convertie en micro-ondes. Ensuite, ces ondes sont concentrées en un faisceau étroit vers un récepteur. Celui-ci est doté de milliers d'antennes qu'on va appeler redresseuses. Elles viennent convertir l'énergie des radiofréquences en courant continu. Et chaque antenne est de type dipôle, c'est-à-dire dotée de deux brins. Elle est associée à une diode qui vient transformer en courant continu le courant alternatif émis par les micro-ondes. On a donc fait de l'électricité sans fil. Concrètement, les militaires ont installé un faisceau de micro-ondes de 10 GHz conçu dans le cadre d'un projet spécifique qui s'appelle SCOPE-HERM, et ils l'ont installé dans deux endroits. Le premier était à Blossom Point dans l'état du Maryland. Le second se trouvait dans l'état du Massachusetts. Cette fréquence de 10 GHz a été choisie parce qu'elle reste stable même en cas de forte pluie et qu'elle ne vient pas perturber l'environnement. Et à la fin, le faisceau a fonctionné avec une efficacité de 60%, ce qui est vraiment très honorable pour une technologie qui laissait les scientifiques de l'armée dubitatifs au départ. Avec ce procédé, selon les chercheurs, il serait possible de créer des points d'alimentation sans réseau électrique sur Terre à partir de centrales solaires orbitales, par exemple. Mais l'armée compte plutôt l'employer pour transmettre directement de l'énergie aux troupes sur le terrain, pour éviter les contraintes donc d'approvisionnement. On peut également imaginer que cette énergie pourrait servir à alimenter les fameux canons laser défensifs qui sont testés par la marine américaine, et pourquoi pas également d'autres dispositifs très énergivores. Le principe de diffusion d'énergie sans fil sur de longues distances est loin d'être nouveau. Dès les années 70, la technologie était au point, mais là, c'est une véritable démonstration grandeur nature qui a été faite par la marine américaine, donc de cette électricité sans fil. Ça limite les besoins d'approvisionnement et ça permet d'alimenter en énergie des troupes, des navires. Donc on voit très très bien les débouchés intéressants de cette technologie. Autre sujet, aucune transition, et de toute façon je n'en chercherai pas parce que je ne suis plus inspiré, mais je vous propose 2 heures de nature par semaine. C'est ce qui pourrait bientôt figurer sur l'ordonnance qui sera rédigée par notre médecin, et c'est déjà le cas au Canada, parce que la nature a le pouvoir incroyable de nous faire du bien. Ce sont des chercheurs de l'université Drexel aux États-Unis qui confirment une fois de plus aujourd'hui ce que l'on savait déjà. Selon eux, les personnes en relation avec la nature ont un régime alimentaire plus sain, plus vert, c'est-à-dire plus à base de fruits et de légumes que les autres. Et les chercheurs soulignent que leurs résultats mettent en lumière comment un rapport à la nature restaurée pourrait ramener les populations à une alimentation plus équilibrée. Ils conseillent ainsi d'intégrer plus d'espaces verts aux paysages urbains, mais aussi de faire entrer la nature dans les salles de classe et même de commencer à prescrire des sorties au grand air ou tout au moins dans des parcs. Alors, ils reconnaissent aussi que les choses, elles pourraient s'avérer plus complexes que cela. Les bienfaits à tirer de la nature pourraient aussi dépendre de la culture, de l'histoire, ainsi que des facteurs sociaux et économiques qui vont lier un petit peu les communautés à la nature d'une part et à l'alimentation d'autre part. En attendant, il y a d'autres chercheurs, notamment à Boston, qui apportent, eux, de nouvelles preuves que la présence d'espaces verts dans les zones résidentielles améliore les fonctions cognitives, la vitesse de traitement des informations et d'attention, en clair, c'est-à-dire que la verdure, elle limite aussi les risques de dépression, ce qui peut être intéressant, le tout en améliorant donc la santé mentale des populations. Alors même lorsqu'elles commencent à prendre de l'âge, apparemment également. Donc c'est des confirmations de quelque chose que l'on savait déjà. On ne va pas non plus se dire « Ah, c'est totalement inédit », mais en tout cas, voilà, il y a encore des recherches qui montrent de toute façon l'impact de la nature. Mais on préconise, voilà, 2 heures dans la nature chaque semaine pour aller mieux. C'est le titre de cet article. Allez, on écoute un dernier titre pour cette dernière émission de cette saison. L'émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Miss Pentioff, c'était End sur l'antenne de Graphie. End, la fin, bien sûr, parce que ça va être la fin de cette émission avec ce dernier article pour fêter l'été. C'est glaçons sans glace. C'est une nouveauté qui a été annoncée par des chercheurs de l'Université de Californie qui proposent aujourd'hui des glaçons nouvelle génération, notamment pour réfrigérer les poissons sur les étals de marché. On a ces espèces de glace pilée qu'on utilise. Eh bien, eux, ils ont trouver des glaçons essentiellement destinés à améliorer les conditions de réfrigération dans le secteur de l'agroalimentaire. Ces glaçons sont sans plastique, ils ne fondent pas, ils sont réutilisables une douzaine de fois a priori et ensuite ils sont compostables, le tout grâce à plus de 90% d'eau et quand même quelques autres composants utilisés pour stabiliser leur structure. Il y a de la gélatine dérivée de protéines et pour les rendre encore plus durables, les chercheurs envisagent d'utiliser des déchets ou des des produits agricoles comme réfrigérants. À température ambiante, ces glaçons se présentent ainsi sous la forme d'une espèce de gelée transparente qui peut être moulée, qui peut être découpée selon la forme souhaitée, et après congélation, ils deviennent tout simplement durs et opaques. Vous pouvez compter sur eux pour garder efficacement vos aliments au frais pendant une période de 13 heures. Ensuite, il vous suffit de les récupérer, de les rincer à l'eau et de les remettre au congélateur pour les utiliser à nouveau. C'est ce qu'explique Gang Sun, professeur à l'Université de Californie, dans un communiqué. Des tests montrent que ces glaçons peuvent supporter jusqu'à 10 kg sans subir de déformation, et leurs propriétés antimicrobiennes permettent d'envisager de les utiliser à la place des blocs de glace réfrigérant en plastique que l'on met facilement dans nos glacières, bien sûr. C'est des blocs sur lesquels, à force de les utiliser, eh bien, se développe souvent de la moisissure. Là, ça ne sera plus le cas parce que c'est antimicrobien. Ces nouveaux glaçons présentent donc des avantages pratiques immédiatement tangibles et d'autres qu'il est peut-être intéressant de souligner. Par exemple, ils ne fondent pas, donc il n'y a plus de coulées d'eau sur les marchés aux poissons, des coulées qui peuvent contaminer d'autres produits, et puis aussi, du coup, on va finir tout ça dans les égouts, donc ce n'est plus possible. Et comme ces glaçons sont réutilisables, eh bien, ils permettent de limiter la consommation d'eau dans le secteur agroalimentaire. Leur stabilité permet aussi d'imaginer de réduire les risques de détérioration des aliments qui ont besoin d'être conservés au frais. Des glaçons sans glace, c'est la nouveauté, c'est l'avenir, mes enfants, c'est ça. Mettez un glaçon dans votre cocktail, à consommer avec modération, bien évidemment. Pendant ces vacances, je prends des grandes vacances sur l'antenne de Graphite, j'en profite, on est déjà 18 juin, et du coup, je rends l'antenne et pour cette saison. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir accompagné tout au long de cette année, tous les samedis. Voilà, j'essaye un petit peu de vous apporter un peu d'informations scientifiques, pour qu'on puisse un petit peu se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, parce que ça nous concerne. Toutes ces technologies modernes que l'on évoque dans cette émission, on les aura bientôt avec nous. Ces grands sujets sur le réchauffement climatique, sur l'énergie, voilà, c'est des sujets qui nous concernent évidemment, et on voit très bien que pour l'instant, les recherches montrent l'aggravation de la situation mais n'apportent pas nécessairement de solution. Et bien sûr, au niveau médical, hein, c'est aussi très souvent des sujets qu'on aborde dans cette émission. On voit très bien des avancées vraiment intéressantes dans certaines thérapies, bien sûr, au niveau du cancer, au niveau d'Alzheimer, de Parkinson, enfin au niveau du cerveau, en clair, il y a des choses aussi qui avancent. Et c'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est que finalement, la science est porteuse d'espoir, et c'est tant mieux. Je vous souhaite de passer un bon été, faites attention, soyez prudents, mais aussi faites-vous plaisir, c'est ça qui est intéressant. Pour cette dernière émission, je voulais remercier bien sûr à titre personnel la direction de Graphite, Brian, Léo qui me dépanne très souvent d'un point de vue technique, et puis toute l'équipe de Graphite qui est à votre disposition pour vous proposer tous les jours des émissions intéressantes dans votre radio curieuse. J'espère vous retrouver à la rentrée de septembre. Alors, je n'ai pas le jour précis, mais normalement, ce sera toujours le samedi à 12h, je l'espère. Et on continuera, bien sûr, à évoquer l'actualité, parce que j'ai oublié l'espace. Et l'espace sera encore un sujet très intéressant que nous allons évoquer l'année prochaine. C'était un plaisir pour moi de vous accompagner pendant cette année. J'espère que c'était un plaisir pour vous d'avoir suivi cette émission. En tout cas, merci de votre fidélité. Et donc, on se retrouve début septembre. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.